sur Facebook. Le gouvernement prévoit d'imposer une majorité numérique, d'imposer aux mineurs de moins de 16 ans d'obtenir l'autorisation de leurs parents pour s'inscrire sur un réseau social. Alors, comme une impression que les ados sont un peu dans le collimateur du gouvernement ces temps-ci, puisque cette semaine, on apprenait aussi que le téléphone portable interdit à l'école et au collège dès la rentrée 2018, c'est sûr, ça se fera, a dit le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, qui a rappelé qu'il est bon que les enfants ne soient pas devant les écrans avant l'âge de 7 ans. Autre mesure impactant notre vie quotidienne annoncée cette semaine, enfin annoncée pour l'instant, on teste, on lance le pavé, on voit les réactions. Je suis favorable à la réduction de la vitesse à 80 km/h au lieu de 90 sur les routes départementales. C'est ce qu'a lâché le Premier ministre Édouard Philippe cette semaine. La décision sera prise au mois de janvier. Et notez que le nombre de morts sur les routes est en hausse de 8,9% en novembre, avec 281 tués contre 258 en novembre 2016, a dévoilé lundi la sécurité routière. À propos de voitures, notez qu'une voiture de 8 ans coûte moins cher à l'entretien qu'une voiture neuve. Eh oui, ça va contre les idées reçues. C'est une étude signée Vroomly, comparateur en ligne des prix de réparation de voitures. Prenons l'exemple du véhicule le plus répandu en France, une 208 de 4 ans. Elle revient à 423 € par an, tandis que le modèle plus âgé de 8 ans, une 207, revient à 346 €. La raison de l'écart est simple. Certaines interventions doivent se faire dans les 5 premières années et c'est là qu'il faut dépenser plus. Politique, c'est pas gagné pour Laurent Wauquiez. Après son élection le week-end dernier à la tête du parti Les Républicains, près de 6 Français sur 10 désapprouvent cette élection. Sondage BVA tombé cette semaine pour La Tribune. Laurent Wauquiez qui se défend cette semaine dans Le Parisien. Quand j'avais 28 ans et que je ne disais rien, j'étais le chouchou des médias. Quand maintenant j'assume mes idées, on veut me le faire payer. Je ne veux pas faire une droite filée d'eau tiède. Je ne suis pas là pour plaire, mais pour dire les choses. Une élection de Laurent Wauquiez à la tête du parti qui a provoqué une sortie du parti. Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France, affirmant qu'il ne se reconnaît plus sur la ligne du parti Les Républicains. Cette semaine, on a eu aussi le sommet international sur le climat convoqué à Paris par Emmanuel Macron, le One Planet Summit, pour trouver de l'argent pour lutter contre le réchauffement climatique. Et Emmanuel Macron a donné rendez-vous dans un an. Il veut que ce type de sommet se tienne chaque année et pourquoi pas chaque année en France. Emmanuel Macron qui a été une star, hein. L'ancien gouverneur de Californie, Arnold Schwarzenegger, a insisté pour faire un selfie avec lui. Mais enfin, cette semaine, les premiers palmarès ont commencé à tomber. C'est la saison, hein. En fin d'année, on publie les palmarès de l'année 2017. C'est celui de Google qui a été publié cette semaine. Google en France, révélant que Johnny Hallyday a été le mot-clé le plus recherché sur son moteur de recherche sur toute l'année 2017, devant Maëlys, le nom de la petite fille disparue cet été dans l'Isère, et devant l'élection présidentielle. Quant aux définitions les plus recherchées sur Google, a-t-on appris en 2017, oligarchie, puis régalien, puis procréation médicalement assistée. Voilà pour cette rétrospective. Merci de nous avoir choisis. Je vous souhaite de passer une excellente fin de week-end avec nous.
La météo de votre région sur RVE.
Côté météo aujourd'hui, quelques éclaircies feront leur apparition avec des températures relativement fraîches, 5 degrés pour la maximale cet après-midi. Et tout de suite, on continue avec votre émission sport, Tribune Sport, présentée par Philippe Carnus. Et je vous souhaite un très bon dimanche à tous et bonne émission à toi Philippe.
Et oui, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver hein, en ce dimanche 17 décembre. Alors, Jean-Michel Richefort devait être ce matin notre invité, le vice-président de la Fédération française de cyclisme. Et vu l'actu abondante hein, qu'on va vous proposer au cours de cette émission, eh bien, on a différé ce rendez-vous à dimanche prochain. On l'aura donc comme dernier invité de l'année 2017, dimanche prochain, 24 décembre. On va effectivement revenir sur une forte actu sportive, hein, notamment sur le Téléthon, sur ce qui s'est passé en matière de sport à travers le Téléthon. La semaine dernière, on ira aussi faire un petit peu le bilan de ce Téléthon sur Rambouillet avec le coordonnateur Armand Michel. Et puis dans la deuxième partie de notre émission, eh bien nous reviendrons sur une grande première, le Conseil régional d'Île-de-France qui a donc récompensé ses meilleurs clubs sportifs et ses meilleurs athlètes mercredi soir à travers donc les victoires sportives. On y reviendra avec toute une série d'interviews. Allez, on commence et on rentre dans le vif du sujet. On revient sur le Téléthon qu'on vous a fait vivre la semaine dernière avec un petit direct sur Limours et puis tout plein d'interviews enregistrées. On commence avec monsieur le maire de Rambouillet, Marc Robert, qu'on avait rencontré vendredi soir sur la manifestation de volleyball. Avec Marc Robert, le maire de Rambouillet. Marc, ça y est, le Téléthon est bien lancé sur Rambouillet.
Ah oui, oui, et puis on a fait un petit passage un peu partout depuis ce soir. Donc il y a toujours autant de participants. La température température ambiante à l'extérieur fait que les gens ont un peu de mal à sortir probablement, mais je peux lui engager demain encore toute la journée. Non, il y a une excellente ambiance comme à l'habitude, et là la Louvière, il suffit de venir voir à la fois la gendarmerie, la police, les pompiers, les services techniques. C'est extraordinaire d'ambiance, et puis voilà, c'est ça le Téléthon. Hein.
Ça, c'est bien que tous ces corps de métier se soient mobilisés.
Ouais, et c'est assez souvent le cas à Rambouillet. C'est un peu une marque de cette ville qui, depuis toujours, favorise la complicité entre les forces de police, de secours. Les gens s'apprécient beaucoup. En plus, ils sont efficaces sur le territoire, alors quoi de mieux, hein.
Oui. Marc, ça peut donner des idées à certains les années prochaines, par exemple, de se lancer, parce que chaque année, il faut se renouveler. C'est ça la difficulté.
Ouais. Alors, je pense qu'ici, déjà, à la Louvière, ce qui a été fait aujourd'hui pour la première fois, je pense que ça sera reconduit. Oui, je pense que c'est comme ça qu'il faut le faire d'ailleurs, parce que je pense que les associations devraient peut-être penser à s'associer pour pouvoir apporter quelque chose de festif et d'efficace. Bon, enfin, maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je respecte naturellement toutes les bonnes volontés des bénévoles, surtout qui s'y mettent. Hein.
Et puis, 15 jours avant Noël, on a envie d'être généreux, solidaire,
ouais.
Encore plus.
Et oui, naturellement, les fêtes arrivent. Voilà, les personnes qui, malheureusement, souffrent de maladies, pour certaines de maladies quelquefois incurables ou très difficilement curables, c'est l'objet du Téléthon. Et puis c'est vrai que les fêtes, c'est en tout cas à moi, tout personnel, c'est bien sûr les fêtes parce que j'ai ma famille, etc. Mais on ne peut pas ne pas s'empêcher de penser à ceux qui souffrent, et il y en a encore beaucoup, malheureusement. Donc ne pas oublier pendant ces fêtes que d'autres, malheureusement, ne peuvent pas fêter comme nous le faisons. Voilà, c'est aussi ça, la République, c'est aussi ça la France, c'est aussi ça Rambouillet.
Merci. Alors, après Marc Robert, eh bien maintenant, le sentiment du président de la section volet, Mathieu. Bon, avec Mathieu, président de la section volet de Rambouillet. Mathieu, la fête est belle ce soir.
C'est très belle, le gymnase est rempli. Tous les terrains sont pleins de volleyeurs, de personnes qui font du badminton et du dodgeball aussi au milieu. Et l'ambiance est folle et à écouter. Ça parle, je pense que l'ambiance sonore parle d'elle-même.
Alors, on l'a dit, trois sports, trois activités, le volet, le badminton et puis la balle aux prisonniers.
C'est ça, alors on l'a appelé dodgeball parce que sur le moment, bon, je l'avoue, on n'assumait pas complètement le fait de dire balle aux prisonniers, donc on appelait ça dodgeball à l'américaine. Et finalement, ça marche très très bien parce que tout le monde connaît les règles, tout le monde y a déjà joué en étant petit dans son enfance, donc ça rappelle de bons souvenirs.
Voilà, alors effectivement, il y a un record à battre, on espère, quel record?
Alors ce soir, on espère le record de... Pour l'instant, c'est la première édition, donc on n'a pas de montant fixé à l'avance. Mais on va placer les pions ce soir pour mettre les jalons pour les années prochaines. Et on essaye donc de faire déjà un montant le plus élevé. Et on fera encore mieux l'année prochaine, on l'espère.
Oui, parce que vous avez une promesse, vous l'aviez promis il y a un an, d'organiser ce Téléthon avec plusieurs autres activités sportives. Bah, c'est fait, promesse tenue.
Et c'est ça, parce qu'on s'est retrouvé, comme le disait Géraldine, en prologue de cette première édition, on s'est retrouvé l'année dernière à votre antenne justement. Un petit peu sans pouvoir rien faire pour le Téléthon de l'année dernière, donc on s'est dit qu'on s'engageait et qu'on promettait de pouvoir faire quelque chose, un événement pour cette année, et promesse tenue, j'espère que tout le monde sera content, et en tout cas que si on pouvait lancer un rendez-vous pour les années suivantes, ce serait génial.
Très bien, bah, le rendez-vous est plus Mathieu.
À l'année prochaine.
À l'année prochaine, merci.
Merci Philippe.
Alors après le gymnase de Vivonne, on s'est rendu donc à la salle Patnautre, où il y avait aussi une section très très concernée par ce Téléthon, à savoir la section aéromodélisme de Rambouillet, emmenée par son président José. Allez, avec José, le président de la section aéromodélisme de Rambouillet. José, une nouvelle fois, le modélisme présent sur ce Téléthon 2017.
Ah ben absolument, nous sommes tous les ans présents pour le Téléthon et nous le faisons avec plaisir. Mmh. Voilà, absolument.
Ouais, mais en tout cas, c'est un moment sympa, convivial, qui permet de découvrir votre activité qui est aussi un véritable sport.
Oui, alors là, on a changé un petit peu de registre, oui. Parce que jusqu'à présent, on volait surtout avec des petits avions, genre Progress et ça. Et là, on accède plus notre activité sur les drones. Pourquoi ? Parce que la salle est un peu petite, bas de plafond, et donc on a beaucoup de difficultés à voler avec des avions standards. Et comme vous pouvez le voir, tous les jeunes sont vers nous avec du drone finalement.
Voilà. Alors, on vient, on s'initie à votre activité, on donne la somme que l'on veut.
Oui, absolument. Et donc, c'est ce qu'on attend, nous. Notre désir, c'est d'avoir un petit peu de monde et puis qu'ils viennent mettre le robot dans la petite cagnotte et dans l'urne, quoi. C'est un peu le but de la manip, finalement. Hein.
Voilà. Il y a record à battre.
D'accord, ouais. À battre, oui, bon.
C'est le but aussi, un peu. Hein.
C'est le but, on essaie, mais bon, c'est maintenant un peu difficile, quoi. Mais bon, ça va, on a bon espoir. Hein. On est là encore à peu près au moins jusqu'à 4h du matin. On a de quoi faire encore. Hein.
Et dans la bonne humeur. Alors, quand on est un béotien, un non-habitué, c'est facile comme ça de conduire comme ça du premier coup chez les petits engins?
Non. Ouais. Il ne faut pas croire tout ce que l'on dit, tout ce que les vendeurs veulent vendre. Et il faut absolument faire partie d'un club pour pouvoir apprendre à piloter correctement ses engins. Autrement, c'est la casse assurée. Ça, c'est aucun problème de ce côté-là. Hein.
Ils valent combien, hein, ces petits engins, ces drones et ces petits avions?
Alors, tout dépend, parce que vous avez des appareils qui coûtent une centaine d'euros. Facile, mais bon... Finalement, pas tellement intéressant. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt de construire. Et puis, pour construire un engin comme celui qui évolue actuellement, pour une cinquantaine d'euros, vous pouvez parfaitement bien vous amuser. Hein. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Bon, après, vous avez des modèles qui montent jusqu'à 700-800 euros. Hein. Mm-hmm. Mais bon... Ils cassent pareil hein, quand ils vont au tapis. Hein.
Bah d'ailleurs, on a vu un télescopage là.
Ah, oui, c'est assez amusant. Quoi. Ouais. Enfin, pour les spectateurs, peut-être pas pour les pilotes.
Voilà. Très bien, merci José en tout cas.
Eh bien, à bientôt alors. Oui. Et puis merci pour votre accueil aussi. Voilà.
Voilà, donc ça c'était pour Rambouillet vendredi soir. Et puis on a remis ça naturellement samedi. Et cette fois-ci à Saint-Arnoult en Yvelines avec Alain qui a voulu démontrer qu'on était particulièrement mobilisé pour ce Téléthon 2017 sur Saint-Arnoult.
Allez, avec Alain, un des responsables du Téléthon sur Saint-Arnoult. Alain, comment je présente cette édition 2017 hein? On se prépare pour les marcheurs notamment?
On se prépare là pour la marche de nocturne, quoi. Donc on attend le maximum de marcheurs possible. On a limité les places à 120 personnes parce qu'il nous faut des bus pour ramener les marcheurs. Et puis derrière, il faut aussi une infrastructure parce que c'est une marche nocturne où on demande une participation de 15 euros pour le Téléthon, reversé intégralement au Téléthon. Mais après la marche, en fait, il y a une petite collation, soupe à l'oignon, une petite tranche de jambon, enfin quelques bricoles. Quelques fruits, quoi, disons, pour finir la soirée tous ensemble et être dans cette ambiance de festif aussi du Téléthon, parce que c'est aussi la fête quelque part, même si l'enjeu est grave et important. Mais je pense que c'est aussi important de que les gens se retrouvent ensemble, participent et... Bon, j'allais employer un mot communier, mais c'est peut-être pas tout à fait ça, mais bon, qu'on ait une vie ensemble après cette activité, quoi.
Oui, c'est ça aussi la force du Téléthon, oui, voilà, deux semaines ça. Des fêtes de fin d'année.
Voilà, c'est ça, c'est aussi de faire ces échanges. On voit que, là, on est dans une période pré-Noël où les gens pensent aux cadeaux, pensent à tout un tas de choses. Et là, je pense que c'est important ces moments-là, justement, où on arrête aussi de penser un petit peu à nous, à nos proches. Mais aussi, on se dit que il y a aussi des gens qui sont plus ou moins dans la misère, dans le besoin, qui sont en galère parce qu'ils ont eu des maladies. Et là, on peut les aider, on peut donner un petit coup de chapeau. Je trouve que c'est bien.
Oui, alors on va marcher 10 kilomètres.
Une dizaine de kilomètres environ. Bon, c'est une petite marche facile, hein. C'est simple à faire. Il y a les chemins sont bien praticables, il n'y a rien d'extraordinaire. Ce matin, on a fait la même chose pour les enfants, pour les familles. 7 km autour de Saint-Arnoult, ce qui nous a permis de découvrir. On est monté dans les hauts de Saint-Arnoult, les gens ont pu découvrir leur ville, chose que pour certains, c'était la première fois, et ça me fait plaisir de faire découvrir. On est passé aussi après dans les petites rues basses, les petites rues de Saint-Arnoult. Et ça aussi, c'était intéressant parce que c'était des endroits que les gens ne voient pas forcément. Donc, ils ont participé à quelque chose. On a mangé un petit bout de gâteau à la fin. Enfin, il y a un petit jus d'orange, un petit café. Mais on a aussi proposé une découverte de Saint-Arnoult. Quelque chose qu'ils ne connaissaient pas forcément. C'est aussi ça pour nous l'esprit du Téléthon, quoi, c'est de proposer aussi quelque chose aux gens.
Et c'est bien que Saint-Arnoult soit revenu sur le Téléthon. Il y avait un petit creux et puis depuis quelques années, à nouveau, on s'est investi pour le Téléthon à Saint-Arnoult.
Ouais, depuis là, c'est notre 9e marche là quand même nocturne. Donc ça marche bien. On a été victime de notre succès. Des fois, on limite un petit peu justement là parce que encadrer 200, 250 marcheurs, c'est compliqué. C'est une grande colonne dans les bois. Il faut réussir à encadrer tout le monde. Et puis, il faut après aussi les accueillir et tout. Et tout ce qu'on fait, en fait, c'est fait tout l'argent qu'on demande pour cette marche. Et ce qu'on va offrir ce soir, la soupe à l'oignon et tout, en fait, on peut le faire parce qu'on ne dépense aucun euro. Donc, c'est juste avec le soutien des commerçants de Saint-Arnoult. Ça, je tiens vraiment à les remercier tous. Les boulangeries, la boucherie, le fromager, les supermarchés, les fruits et légumes, tout le monde, tous. Enfin, je pourrais citer toutes les enseignes, mais tous les commerces de bouche de Saint-Arnoult nous soutiennent, y compris ceux de Rochefort aussi, parce qu'on voilà. Et donc c'est des gens qui nous donnent, qui ont donné ce matin des croissants, des trucs. Hier on a vendu des pains au chocolat à la sortie des écoles, des gâteaux. C'est les commerçants qui nous ont donné. Là, ce soir, on a une tranche de jambon. C'est les commerçants qui donnent. Vous voyez, il y a des caisses de mandarines, il y a des pommes. Tout ça, c'est donné par les commerçants de Saint-Arnoult. Généreusement, ça nous permet, nous, d'offrir quelque chose sans débourser un centime, ce qui fait que l'intégralité de notre recette, elle est donnée au Téléthon. Et pour nous, c'est ça, c'est important, quoi. Voilà. Et je tiens vraiment à les remercier. Ça me semble très important. Je le ferai tout à l'heure, parce que je pense que sans eux, on ne pourrait pas faire ça.
En tout cas, bravo Alain, et puis bonne balade, bonne rando.
Merci, ouais. Moi, je vais pas faire la balade, malheureusement, parce que je vais rester ici. Il faut, y a un petit vin chaud en arrivant. Ouais. Il y a une soupe à l'oignon, donc il faut assurer la logistique. Mais j'ai marché ce matin.
Voilà, merci.
J'étais avec les enfants et c'était merveilleux. Merci beaucoup.
Alors après Saint-Arnoult, un passage incontournable du Téléthon Bullion, où avec Simon Violent, plus que jamais, on avait cette année une pensée pour Rémi et Baudouin. Alors, avec Simon Violent à Bullion, Simon, ce Téléthon, comment se passe-t-il depuis le début?
Finalement, il marche très bien, puisqu'on a eu très peur avec le temps la veille. Donc, il marche très bien, parce que hier, la marche de Bonnel à Bullion a été magnifique, avec 110 participants. C'était donc plein à Bullion. Tous les marcheurs sont retournés sains et saufs. Bonnel est très, très, très content. Moi, comme je dois voir un peu sur les trois cités, j'étais aussi au loto de la salle des bords, et la salle était bourrée. Donc, je pense, pas bourrée, hein, pleine. Donc, pour l'instant, c'est très bon signe. Il y a eu une petite diminution cet après-midi, mais c'est souvent très, très courant, cette situation. Et on espère beaucoup de monde, tout va se jouer ce soir sur les moules frites.
Et puis il y a des filles aussi, hein. Et là on va pas d'accord, hein, sur Paris-Roubaix, sur Paris-Dour, sur Tour des Flandres.
Alors il y a le défi qui remplace le relais qu'on faisait avant autour du stade, et c'est donc un défi homme-traîneur. On est déjà arrivé à Paris-Roubaix, on est en train de faire la flèche wallonne, donc c'est assez remarquable pour une première fois.
Oui, tout le monde est encore très mobilisé, hein, très sensibilisé, Simon, sur ce Téléthon, sur Bullion, et pour cause.
Ah ben je le disais à midi, c'est vraiment exceptionnel. Et il y a un pompier qui venait avant en pompier quand on avait droit à cette voiture pour le Téléthon, qui vient depuis sans être en civil, quoi. Et il nous a dit qu'il y avait à Bullion une ambiance qu'on n'avait pas partout ailleurs. Bon, c'est gentil, c'est peut-être un peu gentiment dit, mais il vient nous voir. Aujourd'hui, il est venu nous voir aujourd'hui en civil, donc je pense que c'est ça qu'il apprécie.
Parce que Simon, Bullion, c'est aussi naturellement Baudouin et puis tous les autres.
Ah ben ça, il est évident, il est absolument évident que le décès de nos enfants est une chose qui permet une plus grande facilité d'approche, mais je pense que, enfin je pense pas, à chaque endroit où je vais, je rappelle quand même pourquoi ils sont là. Et les gens doivent savoir que nos 5 enfants, en l'occurrence, et tous les autres en France, sont décédés. Et que c'est grâce à eux qu'il y a le Téléthon, et grâce à eux qu'on trouve un jour quelque chose. Alors on continue le combat. Et ce soir, on attendait une grande, grande soirée, puisque nous aurons en particulier Tony Bastin, le remarquable chanteur du cabaret du Bout des Prés, qui, malgré une matinée cet après-midi et une soirée ce soir, viendra en vitesse nous chanter 4 ou 5 chansons, et c'est extrêmement sympathique, et ça reflète l'ambiance.
Très bien. Rémi et puis les autres vont être fiers comme ça.
Rémi, je crois que là-haut, il serait content. Ils sont contents de ce qu'on fait. Je pense qu'il faut continuer pour les autres, je crois.
Merci Simon.
Merci à vous. Merci à Hervé.
Et puis naturellement, on a terminé samedi soir à Rambouillet en compagnie d'abord de quelqu'un qu'on connaît. Hein, il est chroniqueur sur notre antenne, c'est Laurent Boudinot, qui nous explique sa journée passée au sein du peloton du CTR.
Bon, avec quelqu'un qu'on connaît bien sur l'antenne, Laurent Boudinot. Laurent, vous avez fait le parcours du CTR, chapeau ou un courage, parce que les conditions météo n'étaient pas terribles cette année.
Les conditions météo n'étaient absolument pas terribles cette année. On s'est même demandé ce matin si, compte tenu des risques de verglas qui étaient avérés, on allait partir ou pas. Et bien finalement, un certain nombre d'aguerris sont partis. On était une grosse soixantaine sur l'ensemble de l'année, de la journée, et on a bien profité du parcours. On a été très agréablement accueillis dans les différents lieux du circuit, et nous sommes rentrés ce soir à Rambouillet, très heureux d'avoir contribué à cette belle opération qui est le Téléthon.
Alors, il fallait être très couvert, il fallait être surtout très vigilant, il n'y a pas eu de chute, Dieu merci.
Il n'y a pas eu de chute, on va dire qu'il y a eu quelques glissades qui sont terminées au sol, mais sans aucune gravité en soi. Donc il y a éventuellement quelques bleus, mais rien d'autre. Et puis bon, en roulant tranquillement et en se méfiant, en se prévenant mutuellement, on a couru. Et puis le froid, ça a piqué un petit peu le matin. Et puis après, ça s'est vite passé. On a eu un beau rayon de soleil en début d'après-midi. Et puis voilà, sur le soir, ça rafraîchissait à nouveau, mais c'est normal.
Oui, il n'y a pas les pieds, les mains de froid.
Il y a les pieds et les mains, mais on les a tous conservés, on est tous rentrés avec, donc globalement ça doit aller. Non, en mettant double chaussette et double paire de gants, ça va très bien.
C'est vrai que cette rando du CTR, ce raid du CTR, ça fait des années et des années, c'est un des temps forts du Téléthon sur Rambouillet.
C'est un des temps forts du Téléthon, c'est un temps fort de la vie locale, c'est un temps fort aussi du CTR, parce que ça mobilise quand même beaucoup de monde pour préparer le parcours, bien évidemment, même si on passe toujours à peu près vers les mêmes villes, mais on tourne une année dans un sens, une année dans l'autre. Ça mobilise, puisque on mange tous ensemble le midi, ça mobilise 2 équipes qui le matin vont préparer le repas, le faire chauffer et préparer la salle, et une autre équipe l'après-midi qui vont dans l'ombre en quelque sorte, aussi bien les uns que les autres, préparer ce repas pour 60 ou 100 personnes. Il faut quand même s'employer. Donc c'est vraiment un beau moment de vie.
Alors une telle randonnée, un tel périple, on met combien de temps à 100 mètres ?
On peut repartir la semaine prochaine, il n'y a pas de souci. Donc comme on roule quand même relativement tranquillement, l'objectif c'est de rouler ensemble. Donc au maximum on roule à 19 de moyenne, donc ce qui pour quelqu'un qui roule relativement régulièrement, c'est assez facile. Qui plus est, on s'arrête donc régulièrement dans les différents villages, dans les différents lieux. Ça permet de récupérer, ça permet de rencontrer du monde, ça permet de repartir derrière. Donc non, on n'est pas fatigué. Et heureux de l'avoir fait.
Merci Laurent.
À très bientôt.
Et les cyclistes donc étaient naturellement pas concernés par ce Téléthon, mais il y avait aussi les passionnés de sport automobile, à l'image de Pierre Buret, le président de l'association des petites rennes.
Avec Pierre Buret, donc, du rendez-vous de Rennes. Pierre, vous avez une nouvelle fois, avec votre association, voulu participer au Téléthon.
Eh bien, oui, c'est une première pour nous à Rambouillet. Et finalement, j'ai été très satisfait de la manière dont ça s'est déroulé. Les adhérents ont répondu présents. Et puis, c'est une première. Nous allons essayer d'améliorer ça pour l'an prochain.
Oui, alors, on a pu monter dans vos vieilles voitures, ces voitures qui nous ont fait donc rêver, pour une somme modique, finalement.
Oui, le tour était à 5 euros et donc c'est une somme très raisonnable, et les gens pouvaient faire un grand tour de Rambouillet et beaucoup ne s'en sont pas privés.
Voilà. Vous étiez localisé l'année dernière sur Bullion, cette année c'était Salle Patente. Quel a été l'avantage de ce changement?
Eh bien, c'est quand même pour une association rambolitaine. je dirais, un honneur de participer au Téléthon à Rambouillet et nous décidons dans l'avenir de poursuivre ainsi.
Voilà. Les tours ont duré combien de temps ?
Oh, les tours duraient un bon quart d'heure.
D'accord. Ouais. Donc c'était vous qui conduisiez ? Il n'y a jamais quelqu'un qui a voulu prendre le volant ?
Non, jamais personne ne veut conduire, d'autant plus que ces voitures sont souvent, ça nécessite un petit peu d'habitude quand même. Hein, voilà.
Alors, quand quelqu'un comme ça monte dans votre voiture, on vous pose un tas de questions, je suppose. Alors, on est curieux de tout.
Les gens sont absolument enthousiasmés et généralement les personnes un peu âgées, ça leur rappelle des souvenirs et c'est un échange qui est vraiment très sympathique.
Ouais. Et puis, en plein dans les décorations de Noël, ça rend la balade encore plus grande, plus joyeuse.
Oui, alors je dirais à ce sujet que la situation sur le parking de la salle Patnaud, qui est merveilleusement décorée, était très agréable. Voilà.
Très bien, merci Pierre. On peut vous retrouver maintenant tous les troisièmes week-ends du mois, faut le dire.
Tous les troisièmes dimanches du mois sur le parking du supermarché Leclerc à Rambouillet, à la Clairière, et hiver comme été, 12 mois sur 12.
Voilà, et puis rendez-vous l'an prochain pour le Téléthon.
Absolument.
Voilà, merci Pierre.
Merci Philippe.
Voilà, on va rappeler quand même donc les promesses de dons 2017, hein, 75,6 millions d'euros. C'est un peu moins que l'année dernière, hein, 80,31 millions en 2016. À noter quand même qu'on a battu le record sur Bullion, 13 000 euros, et qu'on est à un peu plus de 12 000 euros sur la ville de Rambouillet. En tout cas, le coordonnateur était dans nos studios de cette ville de Rambouillet, c'est Armand Michel. Il est venu tirer le bilan de cette édition 2017.
Allez, après avoir écouté toutes les interviews qu'on vous a ramenées sur le Téléthon le week-end dernier, on va faire un bilan un peu du Téléthon façon donc nationale et puis surtout Rambouillet avec Armand Michel. Alors d'abord, 75,6 millions d'euros sur donc en promesse de dons sur cette année 2017. C'est une baisse par rapport à l'année dernière, 80,31 millions d'euros.
Ouais.
Armand, bonjour.
Ouais, bonjour. Bonjour à tous. Hein. Écoute Philippe, moi je pense que malheureusement le pauvre Johnny que j'aimais particulièrement bien a marqué son départ et il l'a marqué de manière un petit peu mauvaise pour le Téléthon. Bon, on peut s'apercevoir que les chiffres qui ont baissé au niveau national ont aussi baissé au niveau local, c'est-à-dire sur la commune de Rambouillet et les communes environnantes, hein. Moins de participation. Moins de gens dehors, on a pu s'en apercevoir sur le marché de Rambouillet malheureusement ça se justifie sur les chiffres. Voilà.
Oui, c'est vrai que tout le monde est resté devant son poste, a regardé, était plutôt mobilisé sur la journée donc d'obsèques de Johnny Hallyday. Ça n'empêche pas qu'on puisse donner après quand même.
Ah tout à fait, hein, tout à fait. Il existe encore le numéro 3637 hein, pour faire des dons jusqu'au moment où vous le voulez, hein, puisque ça n'est pas il n'y a pas de clôture, hein, donc vous pouvez donner quand vous voulez, quand vous le souhaitez et combien vous le souhaitez. Mmh. Voilà. Donc surtout faites-le, les gens ont besoin de vous, les malades ont besoin de vous et la recherche a besoin de vous. Voilà.
Et puis, au mois de mars, quand les chiffres seront officiellement dévoilés, on aura toujours, il y en a toujours un peu plus qu'au mois de décembre, lors de la promesse de dons.
Exactement, Philippe. Oui, les gens continuent à donner. Bon, là, on a peut-être la tête à la fête. Bon, les fêtes de Noël arrivent. Donc, mais janvier, février, les comptes se clôturent et on s'aperçoit que les promesses de dons qui sont valorisées viennent engranger le chiffre du Téléthon national.
Voilà. Armand, on est comment une semaine après le Téléthon? Vous avez bouclé votre 31e Téléthon, moi c'était le 23e. On est comment une semaine après? Il y a un manque, il y a une grosse fatigue, dans quel état d'esprit-on?
Bon, une grosse fatigue, non, je pense que...
Oui, c'est un week-end quand même chargé, éprouvant.
C'est un week-end chargé, effectivement. Bon, le week-end n'est pas tout. Après, il faut compter. Après, il faut remonter les fonds. Il faut clôturer les comptes et les envoyer à l'AFM. On se sent... allez, libéré. Libéré, voilà. Libéré, et puis bon, on se dit qu'on a fait une bonne œuvre, encore une fois.
Et on pense déjà à l'édition suivante?
On va y penser, oui. On va commencer à y penser. Mmh. Ouais. La municipalité de Rambouillet qui nous soutient dans cette qui nous soutient très fortement dans cette activité. Je pense qu'on va se retrouver courant janvier pour faire un petit pot de l'amitié, pour remercier les bénévoles. Et puis, après on va repenser au Téléthon de l'année prochaine, quoi.
Alors, on a fait 13 000 euros à Bulliou, c'est un record qui est battu. Sur Rambouillet, on n'a pas fait ça.
Mm-hmm. Alors, sur Rambouillet, on n'a pas fait ça. Une année sur deux, on a le Bénéthon. Mm-hmm. Donc, une année sur deux, on fait des chiffres qui sortent de l'ordinaire, bien évidemment, parce que les sommes ne sont pas les mêmes. Et une année sur deux, lorsqu'on a une activité, je dirais, un temps soit peu normale, on fait entre 15 et 16 000 euros. Mm-hmm. Bon, cette année, on a fait un peu plus de 12 500 euros, 12 686,80 euros pour être exact. Mm-hmm. Bon, ce qui fait une baisse d'environ 30%, hein, ça reflète un peu le Téléthon national. Hein.
Ouais.
Et comme on le disait tout à l'heure, on a de la peine pour les bénévoles qui donnent sans compter. Moi, chaque année, je les remercie. Je profite de ce moment pour encore une fois leur dire merci à tous, hein, merci à tous, mm-hmm. parce qu'il y a pas que moi qui donne, hein. Il y a pas que moi. Moi, je me borne à faire le comptage, à faire le chiffrage et à faire à avoir des relations avec l'AFM, mais c'est tout. Les gens qui sont sur le terrain, ils donnent beaucoup, quoi. Ils donnent beaucoup. Donc c'est un peu à ça que je dirais ça me fait un peu de peine pour eux. Mais bon, ils sont toujours là et ils sont toujours dans le froid. Alors moi, je les remercie très fortement, hein, très fortement. Alors moi, je sais pas ce que tu en penses, mais je voudrais les citer.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Hein, un par un, parce que bon. Alors on a eu les pompiers. Hein, alors moi, je veux bien donner les sommes, mais j'aurais une idée quand même à terme. C'est globaliser ces sommes-là et de manière à ce que la somme globale soit délivrée, mais pas par entité, parce que celui qui fait moins que l'autre, oui. il n'a pas rendu moins d'activité ni quoi que ce soit. Donc moi, je voudrais remercier donc les pompiers, l'Aéromodel Club de Rambouillet, l'Amicale Philatélique Rambouillitaine, Arts et Lettres, les Seigneuriales, pardon, Guitare Café, l'Association des Assistantes Maternelles de la Clairière, l'Association des Jardins Familiaux, le Club Cyclotouriste de Rambouillet, le Club Loisirs et Détente, le Club Pédestre et Touristique de la région de Rambouillet, le Département Éducation Jeunesse, la Fabrique des Colibris et Parc Café Rambouillet en Transition, J'aime la Tortue qui Trotte, Halte Garnerie Boutchou, le jumelage Rambouillet-Kirchheim, Canbrise, le Lion, les Amis des Fêtes, les Petites Mères, les Rendez-vous de la Reine, le Manège et Village de Noël, Madame Sauzède et Chenard, Rambouillet et Sport Volleyball, Rémi, Ressourcez-vous, RSGR, le Tennis Club de la Clairière, et la mairie d'Orphin, et bien sûr toutes les communes qui ont accueilli le tour des plaines et forêts d'Yvelines en cyclisme. Mm-hmm. Voilà, Philippe.
Eh ben c'est très bien. Il fallait le faire, il fallait les remercier. Et de toute façon, le Téléthon, c'est un moment sympa, c'est un lien social aussi. Et quelle que soit la somme que l'on récolte, c'est un rendez-vous devenu incontournable.
Oui, tout à fait, oui. Même 1 euro, ça fait 1 euro de plus. Mmh. Et voilà, donc à bientôt.
Oui.
Et puis merci encore une fois à tous.
Et bonne fête de fin d'année. Allez.
Merci Philippe.
Merci en tout cas à eux et à vous tous pour votre générosité. N'oubliez pas qu'on peut continuer, comme l'a dit Armand Michel, à donner pour le Téléthon tout au long de l'année. La pub, la musique, et on passe ensuite au challenge sportif du comité régional d'Île-de-France.
Quand votre vie évolue, votre voiture aussi doit évoluer. Plus grande, plus sécurisante, moins polluante. Venez trouver la voiture qui vous correspond avec le déstockage massif Nova Automobile jusqu'à fin décembre. Citadine, berline, SUV, Peugeot 208, 308, 2008, 150 véhicules d'occasion prêts à partir. de Genova à Rambouillet et Dourdan. Et comme c'est Noël, Nova Automobile vous offre en plus la carte grise. N'attendez pas. Plus tard, ce sera trop tard. Voir conditions en point de vente.
Cette émission, naturellement, vous pourrez la retrouver en podcast hein, dès cet après-midi, comme toutes les émissions depuis le début de saison et puis également celle de la saison dernière. Allez, comme promis, on va maintenant s'intéresser au challenge sportif qui était organisé par le conseil régional d'Île-de-France. C'était une grande première mercredi et vous allez voir, il y a des grands clubs et des grands noms du sport français qui ont été récompensés. On commence par le club de l'année, c'est le club de Nanterre 92. L'opinion de Jean Donadieu, donc le président. Il s'apprêtait à partir sur un match de basket de Coupe d'Europe, mais il a accepté, après avoir reçu son trophée, de faire un petit détour par le micro d'Hervé.
Jean Donadieu, vous venez de recevoir donc, le trophée de la meilleure équipe en Ile-de-France pour cette année 2017.
Oui.
Oui, ça vous satisfait, je suppose.
Bien sûr. Pour nous, nous en sommes fiers et surtout, ça vient couronner un projet sportif et social important. Voilà, et une certaine. Ça donne de l'espoir aux personnes, aux sportifs qui ont une certaine idée du sport. Mmh. Voilà, sport valeur.
Et puis d'autant plus que bah, vous venez très bas aussi, vous commencez très bas. Hein. Oui. Vous voyez votre montée.
Oui, oui. Nous sommes repartis en 87 depuis là, niveau départemental. Voilà, avec donc toujours les mêmes dirigeants et toujours le même entraîneur. Je crois que c'est unique dans le sport français. Voilà.
Le basket en Ile-de-France, c'est facile d'avoir un public notamment.
Bah, c'est le gros problème. Il y a vraiment trop de. Il y a la concurrence sportive, mais pas que aussi, la culture, le spectacle, etc. Et une couverture médiatique qui n'est absolument pas comparable à la couverture médiatique des clubs de province. Donc ça constitue un gros handicap. Voilà, mais on a fidélisé un public qui se reconnaît dans les valeurs du club, dans le palmarès. Donc c'est la raison pour laquelle on commence à avoir un public, mais ça mériterait quand même une couverture médiatique plus importante eu égard des mérites d'un club, par exemple, comme le nôtre. Nous ne sommes pas des seuls.
Oui, il y a les concurrents du foot et du rugby, fatalement.
Mais bien sûr, bien sûr. Mais bon, depuis le titre de champion de France de 2013, qui a fait quand même un buzz extraordinaire, les gens ont découvert un club comme le nôtre, un petit peu petit pousset, et qui démontre que avec du travail, avec des valeurs, même dans un dans un contexte sport professionnel, eh bien, on peut y arriver. Ça donne de l'espoir justement à tous les bénévoles qui, à longueur d'année, donnent beaucoup pour le sport et le basket notamment.
Merci Jean, ça marche ce soir. Voilà.
Merci beaucoup.
Ouais, merci. Allez,
vraiment sympa, hein, le président Jean Donadieu, et on se rappelle effectivement de ce titre hein, où il avait déjoué tous les pronostics. Alors, club handisport de l'année, eh bien, c'était le club de Meaux handisport. L'espoir féminin de l'année, c'était Kumba Larocque de la section lutte de Bagnolet. Espoir féminin handisport de l'année, c'était Marine Hercochon de la section escrime de Levallois. Espoir masculin de l'année, c'est quelqu'un qu'on connaît bien dans le monde de la Formule 1, c'est Esteban Ocon, donc du club de Rony 80. Et puis équipe féminine de l'année, l'équipe de France féminine de squash de l'US Créteil. Équipe féminine handisport de l'année, c'est l'équipe de natation handisport. Et équipe masculine de l'année, le rugby club de Massy. Alors on va pouvoir entendre son président Serge Moronval, ravi naturellement de cette distinction. Et vous allez voir, il a des ambitions pour 2020, le président.
Allez, avec Serge Moronval, le président de la section rugby de Massy. Serge, votre club a été récompensé ce soir.
Oui, tout à fait, ben, très content vu les résultats qu'on a eus avec notre équipe senior qui est montée donc, cette saison en Pro D2 et donc actuellement on est 11e sur 16, donc on est sur nos points de route pour ce matin en Pro D2, donc c'était en plus une très très belle fin de saison puisqu'on a été qualifié bien avant le dernier match et voilà, donc c'était un aboutissement avec en plus une équipe senior où on avait énormément de gens qui avaient été formés au club ou qui étaient depuis très longtemps au club, donc ça a été quelque chose de très positif puisqu'on a montré que la formation massicoise était capable de monter en Pro D2 avec de bons résultats. On a montré aussi je pense un jeu qui était très agréable à voir. Et puis bah, pour les jeunes qui viennent derrière, nous les jeunes du centre de formation de l'école de rugby, bah, c'est aussi la preuve que quelque part le rugby massicois, y a un débouché au plus haut niveau. Donc, pour nous c'était important.
Oui, et vous avez conscience que vous êtes un des sports les plus importants dans votre département, avec peut-être le hand.
Ah oui, ça c'est clair que on se rend bien compte d'ailleurs à tel point que suite aux événements qui ont eu lieu à Viry, à la Grande Borne, des policiers avaient été agressés. Donc il y a eu une prise de conscience qu'il y avait des choses à faire au niveau de la ville. Et la préfète de l'Essonne nous a sollicité pour en fait mettre en place du rugby au niveau scolaire parce qu'elle considère que les valeurs du rugby c'est quelque chose qui justement peut être important, structurant pour la société. Et il y a tout un tas d'avantages au rugby. Hein. Au-delà de ses valeurs, c'est aussi un sport qui se joue en mixte jeune. Donc depuis le mois de septembre, on intervient dans les écoles élémentaires et dans les collèges de Grigny avec des activités, donc des ateliers de rugby et puis la mise en place, enfin le soutien au moins d'une section UNSS rugby au niveau du collège. Donc c'est quelque chose qui marche très bien et qui, je pense que le rugby il a sa place en Essonne parce que justement il y a cette reconnaissance et ce travail sociétal qui est fait alors à Massy mais aussi dans bien d'autres clubs. Je pense qu'on a montré la voie et que c'est quelque chose qui se développe un peu partout en Essonne.
Bon, le top 14, c'est un rêve un jour?
Nous, c'est dans notre plan de marche 2022. Alors, je dirais que nous, notre objectif à très court terme cette saison, c'est de se maintenir. On était déjà monté deux fois en Pro D2, nous n'avions pas réussi à nous maintenir. Bon, cette année, on est à nouveau le plus petit budget de Pro D2. Mais bon, pour l'instant, on est sur notre plan de marche. Donc, on espère bien pouvoir se maintenir. Mais dire qu'on a déjà quelques pieds en top 14, parce que quand on regarde le nombre de joueurs issus de Massy qui jouent en top 14 ou en équipe de France, des joueurs qui sont passés à Massy, pas forcément tous originaires de Massy, hein, puisqu'on a des joueurs qui viennent un peu de la région parisienne, mais qui sont passés par les équipes de jeunes de Massy, ça leur a permis d'éclore. Et ben, je pense que ça, c'est important. D'ailleurs, à ce titre, je voulais souligner que dans l'équipe de Massy qui joue actuellement en Pro D2, on a des joueurs qui viennent de Massy, mais on a aussi beaucoup de joueurs qui viennent de l'Essonne, hein, qui viennent de Ris, notamment, des Orangis. Et ça prouve que quand on parlait tout à l'heure du rugby, la pyramide du rugby, elle existe avec un club en Pro D2. J'espère un club bientôt en Fédéral 1 avec Orsay. Hein. Cette année, ils ont refusé la montée, mais j'espère bien que l'année prochaine, ils pourront monter. Et puis des clubs en Fédéral 2, en Fédéral 3. Donc on a un un milieu du rugby qui est très dynamique et qui bénéficie à tout le monde, puisque nous, bon, bah, les, on a des joueurs qui, parce qu'ils n'ont pas le niveau, soit parce qu'ils ne veulent pas jouer, forcément s'investir pour jouer à plus haut niveau, bah, vont jouer dans les clubs autour. Et voilà, on a un aller-retour entre les jeunes, les moins jeunes, et je pense que c'est le dynamisme du rugby en Essonne.
Oui, vos effectifs sont en baisse, comme dans certains clubs.
Ah non, pas du tout. Nous, on est même, on commence même à avoir un problème d'infrastructure, puisque nous, on est en très large augmentation au niveau de l'école de rugby. Donc, on a fait un travail à ce niveau-là, c'est-à-dire que depuis deux saisons maintenant, on a une personne qui est salariée du rugby club Massy-Essonne, qui intervient dans des communes autour, notamment des communes de la communauté Paris-Saclay, et qui va travailler dans les écoles, il fait des animations scolaires, et on envoie les gamins dans les clubs à proximité. Donc, il est intervenu à l'INAS l'an dernier, il a envoyé des gamins à Marcoussi, il est intervenu aux Ulis pour envoyer, les gamins vont jouer à Gif et Orsay. Donc avec notre travail, le dynamisme et en fait la force qu'on a en tant que club de haut niveau, on essaie de faire bénéficier les clubs autour de ce dynamisme, et on espère qu'ils auront la même dynamique que nous et le même accroissement de jeunes que nous.
Et puis Marcoussi n'est pas très loin en plus.
Oui, ça c'est un gros avantage hein, au niveau de... D'abord, on a un département, on est dans une région, et notamment un département qui sont très dynamiques. Le département de l'Essonne, c'est quand même, quand le logo Terre d'Avenir, je pense que c'est très significatif. L'avenir, c'est aussi le sport, c'est quelque chose de très très fort. Donc on est à ce niveau-là très bien soutenu au niveau du département. On est dans une commune qui est très dynamique. Et je pense que tout ça, c'est aussi les structures qu'il y a à Marcoussi, avec le pôle médical financé par le département. Donc on a quand même tout un tas de choses au niveau de l'Essonne qui font que tout est fait pour que l'Essonne soit vraiment une terre de rugby.
Très bien, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci.
Voilà, terre de rugby, et notez-le bien, 2020-2022, hein, peut-être le rugby club de Massy en top 14. Alors, pour les arbitres, juges féminins, a été récompensé Lucille Gauvert en athlétisme de la section de l'IS. Et puis pour les hommes, arbitre masculin, c'est Thierry Castel du comité d'Île-de-France d'équitation Duplessis-Bouchard. Bénévole dirigeant de l'année, c'est Vincent Lassalle de la Fédération française Handisport. Le prix de l'innovation pour le rugby à 15, le prix spécial du jury. Alors là, vous allez le connaître, c'est Teddy Riner, le judo du Paris Saint-Germain, hein, qui n'était pas présent à la cérémonie, mais qui a donc envoyé une petite vidéo. Le prix du public, c'est Pritika Pavad, une jeune qui pratique du tennis de table de Saint-Denis, jeune prometteuse joueuse. Sportif handisport de l'année, pardon, c'est Jean-Baptiste Alaise, qu'on ne présente plus, hein, de l'athlétisme du Bourget. Le sportif de l'année, c'est un autre sportif très bien connu qui lui aussi n'était pas là mais a envoyé un petit message vidéo, c'est Pierre-Ambroise Boss de la section athlétisme de Créteil. Et la sportive de l'année, eh bien, c'est Mathilde Gros de la section de cyclisme sur piste de l'US Créteil. Et puis on va finir avec la sportive handisport de l'année, ni plus ni moins, Nantenin Keita. C'est celle qu'on a eu l'occasion de croiser donc à Lima. Elle a vu des mots très forts. Et on l'a retrouvé avec beaucoup de plaisir, l'athlète d'ici, les Moulineaux.
Bon, Anthony Keita, encore récompensé ce soir, à travers sa victoire sportive.
Oui, très honoré d'avoir été récompensé aujourd'hui par la région Île-de-France. Ça prouve, encore une fois, l'engagement de la région sur le sport, sur le handisport, et ils prennent soin de nous.
Oui. Alors, on s'est vu à Lima, hein. Ça va être un véritable booster, naturellement pour notre pays, 2024, et surtout aussi pour l'Île-de-France, naturellement.
Oui, bien sûr, ça va être un booster vraiment pour tout le pays, parce que c'est vraiment les jeux du pays. Et puis après, c'est vrai que la région va prendre une part importante, mais on sait que toutes les régions de la France aussi vont s'investir. Et puis, c'est vrai que nous, on a à cœur de faire de la région une région très sportive, encore plus qu'elle ne l'a été, parce que on a quand même ramené pas mal de médailles sur les Jeux de Rio, et on espère qu'à Tokyo ce sera plus, et que on battra vraiment notre record en 2024 à Paris.
Alors, 3 mois après l'obtention des Jeux, on continue à vous en parler dans la rue, tout le monde est impatient maintenant de vivre ces Jeux.
Mais tout le monde est surtout impatient de que ça se mette en place. Après, je pense qu'il faut y aller pas à pas, faire les choses de façon intelligente et réfléchie. Donc, on est sur la bonne voie, les réflexions commencent à être faites. Donc, moi, j'ai vraiment pas d'inquiétude. Et puis, ça va monter crescendo. Ça sert à rien de partir trop vite pour arriver à point.
Et puis, Antonine, tout le monde se rappelle hein, votre discours au moment de la candidature, hein, des mots forts qui ont encore marqué, donc tout le monde se rappelle.
Bah, tant mieux si ça, oui. Tant mieux si ça a marqué, tant mieux si, si les gens ont été touchés. Après, c'est vrai que voilà, moi, ce que je voulais, c'était vraiment parler de mon expérience, parler des jeux et de la diversité que ces jeux à Paris proposeront. Donc voilà, si le message est passé, je suis contente.
Bon, puis vous, naturellement, vous allez vous investir, mais auparavant, il y a une carrière d'athlète à terminer.
Oui, voilà, moi, je prépare encore les Jeux de Tokyo 2020. Et puis, effectivement, après, j'aimerais bien être sur la candidature de Paris 2024, soit sur l'accompagnement de jeunes, et puis après, ou alors le jour J, pendant les Jeux, être aux côtés de Nelson Montfort pour faire les zones mixtes avec lui.
Bah, vous le saurez.
Ouais, je sais pas, on verra. En tout cas, l'appel est lancé, Nelson.
Voilà, merci en tout cas.
De rien.
Toujours tout plein d'humour d'Antonine et je suis sûr que l'appel sera entendu. Allez, on va finir maintenant avec Patrick Caram, qui était celui qui a organisé cette soirée aux côtés de Valérie Pécresse, hein, présidente du conseil régional d'Île-de-France. Et bien Patrick Caram, il est vice-président de ce conseil régional chargé des sports et il nous a fait un petit peu le point sur la situation sportive en Île-de-France. Avec Patrick Caram, donc vice-président du conseil régional. Patrick, on a vécu une bien belle soirée pour le sport en Ile-de-France.
Mais parce qu'il faut aujourd'hui penser non seulement à honorer nos sportifs, ils le méritent, mais honorer nos bénévoles, honorer nos dirigeants, honorer nos arbitres, à ceux qui font vivre le sport en Ile-de-France, ceux qui font que l'Ile-de-France est une terre de champions. On ne leur dit jamais assez merci. On ne leur dit jamais assez notre reconnaissance. Et l'Ile-de-France a décidé, avec Valérie Pécresse et moi-même, de réparer ce manque, de réparer cette injustice. Aujourd'hui, nos champions, ce sont nos idoles. Et nous continuerons à les remercier et à les honorer chaque année.
Oui, le sport est fédérateur, c'est une des priorités du Conseil régional.
Aujourd'hui, la politique sportive de l'Île-de-France est une politique totalement à part. Nous avons effectivement des baisses de dotation partout, de l'État, des collectivités. La seule collectivité aujourd'hui qui augmente son soutien, une des rares collectivités à augmenter de manière massive son soutien, mais c'est l'Île-de-France. Et nous le faisons pour plusieurs raisons. D'abord parce que nous considérons que lorsque nous disons que les Jeux Olympiques doivent être la fête du sport, ça ne peut pas rester un vain mot. Donc il faut aider à créer des équipements sportifs. Donc nous aidons massivement les maires. C'est 154 équipements sportifs que nous avons créés cette année, contre 13 en 2015 par mes prédécesseurs. Nous sommes les premiers soutiens des ligues et des comités régionaux pour faire de la formation. C'est plus de 32 000 bénévoles sur 300 000 qui sont formés chaque année. Premier soutien aussi pour faire du développement du sport. Nous sommes engagés à Vertorcy pour créer un site nautique olympique que nous finançons de manière massive et quasiment seul. L'État n'a participé qu'à hauteur de 11 millions sur plus de 90 millions d'euros pour l'instant de Vertorcy. L'Île-de-France aujourd'hui assume une responsabilité majeure aussi pour aider le mouvement sportif à valoriser le sport féminin. Ça fait partie de nos priorités, des objectifs que nous fixons à la fois au mouvement sportif et aux maires, à valoriser aussi le sport, le handisport, le sport des personnes en situation de handicap. Nous voulons aller vers l'inclusion. Voilà pourquoi nous avons mis, et tous nos dispositifs vont vers l'accessibilité et l'inclusion.
Ouais, il y a pourtant des petits problèmes d'infrastructure, vous l'avez dit quand même.
Nous sommes un territoire carencé. Nous avons un taux de carence dramatique. Nous sommes aujourd'hui à 45% en taux d'équipement par habitant, ça veut dire que nous avons un retard de 55%, très très loin de toutes les régions de l'Hexagone et même loin derrière la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion. Nous sommes passés derrière les quatre dômes historiques. Ce qui veut dire qu'il fallait un plan. Ce plan, je le mets en place avec Valérie Pécresse et le soutien qu'elle peut m'accorder. Il faut redonner aux maires l'envie de refinancer, l'envie de se réinvestir dans le sport et nous allons créer la conférence régionale du sport pour que les maires ne se contentent pas de financer des équipements sportifs pour lesquels ils doivent désigner des clubs résidents, une section féminine, une pratique féminine et une pratique des personnes en situation de handicap. Je veux aussi que les maires aillent plus loin et que les maires financent leurs clubs et arrêtent de baisser les dotations qui dévouent chaque année au mouvement sportif.
En tout cas, Paris 2024 va être fatalement un véritable booster.
Paris 2024 peut être un frein parce qu'on concentre tous les dispositifs sur le sur Paris 2024 et on oublie le reste. Nous, nous avons décidé de faire Paris 2024, mais de faire aussi le sport amateur, de faire aussi le sport santé, d'aider les publics féminins et le sport de haut niveau féminin, d'aider aussi le sport des personnes en situation de handicap. L'Île-de-France tient les deux bouts de la chaîne, le sport de haut niveau et le sport amateur.
Oui, et puis en totale harmonie avec le CROSIF.
En totale harmonie, effectivement, le CROSIF qui est notre tête de réseau et tous les comités régionaux et effectivement certaines fédérations avec qui nous avons des accords particuliers qui nous permettent aujourd'hui de faire vivre l'esprit que nous voulons développer dans le sport.
Très bien. Merci Patrick. Merci. Intéressante cette analyse de Patrick Caram au micro d'Herve qui était d'ailleurs la seule radio partenaire sur cet événement ce soir-là. On va finir avec celle qui a présenté le Stade 2 il y a encore quelques mois, qui maintenant présente tout le sport et qui animait cette soirée des victoires sportives d'Île-de-France. C'est la belle Céline Giraud. Elle nous a donc notamment parlé de sa motivation pour animer ce genre de soirée. Et puis aussi, naturellement, on a parlé de tout ce qui va se passer en matière de sport sur France Télévisions en 2018. Avec Céline Giraud. Céline, on vient de vivre une bien belle soirée.
Oui.
Des victoires des sportifs de l'Île-de-France.
Oui, tout à fait. Il y a un vivier formidable ici en Île-de-France de champions, de futurs champions valides et handisport. Et moi, j'étais ravie de passer cette soirée avec eux parce que ça m'a donné plein d'idées de reportages, d'histoires à raconter. Vraiment passionnant.
Et puis vous qui avez été championne du judo, fatalement, ça vous rappelle des souvenirs.
Oui.
Ces contacts auprès des bénévoles.
Oui, absolument. Moi j'ai été moi-même plusieurs fois récompensée dans ma région, en Moselle, en Lorraine, et puis après du côté d'Orléans, puisque j'ai été en sport-études là-bas, puis à Paris, quand j'étais à l'INSEP. Donc voilà, je pense que ça fait partie d'une progression pour un athlète. Ça jalonne un peu le parcours, l'itinéraire de vie d'un champion qui est parfois semé d'embûches, des blessures, des contre-performances. Mais ce qui est important, c'est d'avoir des partenaires qui vous suivent, le club, la région, les partenaires. Et je trouve que là, il y a un vrai chouette boulot qui est fait autour de cette équipe de France, tous sports confondus. Mmh. Et puis moi, ce que j'ai bien aimé ce soir aussi, c'est l'éclairage qui a été fait sur les arbitres et les bénévoles. Mmh. Et honnêtement, ils le méritent parce qu'on a tendance aujourd'hui à oublier un peu ça. Et surtout, avec la professionnalisation et le sport business, les bénévoles, ceux qui sont philanthropes et qui font ça juste pour la beauté du geste, ils sont quand même de moins en moins nombreux. Parce qu'on le voit, ils sont âgés d'ailleurs, hein, parce que les jeunes aujourd'hui, il y en a plein qui ont plus envie de se faire suer le week-end sur les terrains. Et je trouve que c'est encourageant et en même temps un peu terrifiant, quoi. Mais, ouais. Mais moi, j'espère que justement Paris 2024 sera l'occasion pour certains de s'investir parce qu'il va y avoir énormément de contributions. On va demander aux bénévoles d'être présents, etc. Et je pense que ça peut générer des vocations, Paris 2024, en tout cas en termes de bénévolat.
Oui, puis ce soir, ceux qui ont été récompensés, certains seront au jeu en Paris 2024.
Oui, tout à fait. La petite Prigita Pavade, là, en tennis de table, qui est incroyable, qui est surdouée. Je pense qu'elle, honnêtement, c'est un vrai, vrai espoir. De médailles et de si elle progresse, continue à progresser bien entourée, qu'elle reste bien concentrée sur son objectif, qu'elle ne perd pas la tête, je pense qu'elle a l'air de bien les pieds sur terre, cette petite, elle peut aller très très loin.
Bon, Céline, vous aimez animer ce genre de soirée, vous en faites beaucoup?
Non, du tout, on ne fait jamais, honnêtement, très peu. Là, ça s'est fait parce que c'est le sport, c'est mon univers, et il se trouve que j'avais passé un peu de temps avec les gens du Krebs autour d'un débat sur la radicalisation. Et ils m'ont dit, tiens, tu veux pas passer ce soir, nous filer un petit coup de pouce. Il y a des athlètes qui étaient là mardi au débat, qui étaient là ce soir. Donc finalement, j'ai retrouvé quasiment les mêmes personnes. Donc non, ça s'est fait vraiment de façon totalement spontanée et inattendue. Et moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Surtout quand c'est en rapport avec ce que je fais, c'est-à-dire mon activité journaliste, quoi.
Bon, maintenant, c'est tout le sport, c'est le week-end. Ça voulait être des semaines un peu plus libres, alors.
Oui, c'est différent. À Stade 2, j'étais déjà à bloc. Non, c'est vendredi, samedi, dimanche. Ouais. C'est encore plus chronophage qu'avant, mais c'est très excitant. J'adore l'exercice. On fait 1,5 million, 1,7 million tous les week-ends. On est sur un public beaucoup plus, j'allais dire, régional que Stade 2. Mais j'adore parce que c'est une autre approche. Et c'est bien de se remettre en question, de se remettre en danger. Donc moi, j'ai bien aimé l'exercice.
Et puis 2018 arrive, ça va être une grande année sportive encore. Les Jeux Olympiques, Roland-Garros, le Tour de France, vous y serez naturellement.
Oui, je serai aux Jeux Olympiques d'hiver déjà. Oui. Je pars le 5 février à Pyeongchang en Corée du Sud. Donc ça, c'est chouette. Et après, effectivement, c'est une année de transition avec le Tour de France, Roland-Garros, et puis pas mal d'événements.
La Ryder Cup, peut-être
La Ryder Cup, oui. Effectivement, on va la suivre, évidemment. C'est tellement inouï que ce soit chez nous. Non, il y a plein de belles choses. De toute façon, le sport, c'est un feuilleton permanent, ça ne s'arrête jamais. Ouais. C'est le week-end et j'adore ce job.
Mmh. Très bien, merci Céline.
Merci à vous.
Merci. Voilà pour Céline Giraud, on vous a gâté hein, à travers donc ces interviews des victoires sportives d'Île-de-France et puis ces interviews du Téléthon. Donc on marque une petite pause musicale, une petite page de pub et ensuite ça sera déjà la fin de cette émission bien remplie et bien.
Dis donc, tu as quelque chose de prévu mardi ?
Ben non, pourquoi ?
Mardi, c'est mon jour shopping au Bel Air.
Ah bon ?
Oui, tous les mardis, tu peux gagner le remboursement de tes achats dans les boutiques du centre commercial et au Carrefour.
Pas mal du tout, ça. Ça vaut la peine de changer le jour de ses courses. Et comment ça marche ?
Ben viens, je t'emmène et je t'expliquerai en route.
De gagnant chaque mardi sur tirage au sort. Détails de l'opération dans votre centre commercial Bel Air, route nationale 10, Rambouillet.
Vivez le sport dans votre région avec RVE.
Voilà, merci à toutes et à tous de nous avoir été fidèles. N'oubliez pas, premier juré, la semaine prochaine, l'émission avec Jean-Michel Richefort, hein, vice-président de la Fédération Française de Cyclisme, qui jouera les Pères Noël et qui sera notre invité pour ce 24 décembre. Comme ça compensera l'émission du 12 novembre qu'on n'avait pas pu vous présenter. Merci Arthur d'avoir été donc aux manettes ce matin. Bonne semaine à toutes et à tous et rendez-vous la semaine prochaine.
Joyeux Noël à tous.
RVE, bonne matinée. Il est 11h.
Le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous. La rétrospective de votre actualité de la semaine qui a été dominée en fin de semaine par ce terrible accident tuant des collégiens dans une collision entre un TER et un bus scolaire. Des collégiens qui devront peut-être bientôt demander l'autorisation à papa et maman pour aller sur Facebook. Le gouvernement